Et on commence ce journal, Antoine, avec une étude parue dans le Journal of Clinical Investigation, étude qui décrypte les effets moléculaires de la caféine.
Oui, on connaît déjà bien les effets sur la vigilance et l'attention de la caféine, substance psychoactive la plus consommée au monde. On connaît moins, en revanche, les effets moléculaires de cette caféine. Des chercheurs de l'Université de Lille et de l'Université de Strasbourg ont cherché à comprendre ces mécanismes en étudiant des souris auxquelles ils ont administré par voie orale des doses de café modérées. Leurs analyses mettent en évidence à la fois les effets métaboliques et génomiques de la caféine, notamment dans la région de l'hippocampe, une région cérébrale clé pour tout ce qui a trait à la mémoire. David Blum est directeur de recherche INSERM au sein du centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition. Il est l'un des auteurs de cette étude.
On a réalisé donc un protocole expérimental extrêmement simple qui a consisté à donner chez des souris tout à fait normales de la caféine par voie orale, à une concentration qui correspond à environ 3 tasses de café par jour, donc une consommation modérée. L'idée, c'était d'explorer par des études sans hypothèse a priori, donc des études épigénomiques, transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques, ce que pouvait faire cette consommation chronique habituelle de caféine chez la souris sur l'hippocampe, qui est une structure extrêmement importante pour le développement des fonctions de mémoire et qui est particulièrement altérée dans la maladie d'Alzheimer. Alors nos résultats montrent en fait que la caféine, de manière surprenante, chez les animaux qui sont à l'état de repos, exerce un double effet. Un effet plutôt dans les neurones, qui est un effet d'activation neuronale qu'on peut observer notamment sur le plan génomique. Et puis en parallèle, un effet qui serait plutôt non neuronal, qui consisterait à l'état de repos à diminuer un certain nombre de voies métaboliques. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque les animaux ont été mis dans une situation d'apprentissage d'une tâche génétique, eh bien, dans cette situation-là, on a vu que, en fait, dans les neurones, on a plutôt une suraugmentation de ces voies d'activation neuronale, et puis, dans les cellules non neuronales, on aurait une augmentation des voies métaboliques. Les perspectives sont multiples. Sur le plan fondamental, on aimerait bien comprendre un tout petit peu plus ce qui se place sur le plan moléculaire dans les cellules non neuronales. On aimerait savoir aussi si ces effets de la caféine sont sous-tendus par la fixation de cette caféine sur ces récepteurs connus dans le cerveau. Et puis, ce qu'on aimerait aussi pouvoir montrer, c'est que la caféine, effectivement, est capable d'améliorer les fonctions cognitives chez l'homme au travers d'essais plus interventionnels. Et dans ce sens, nous avons actuellement un essai clinique de phase 3 qui teste un peu cette hypothèse chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer modérée ou débutante et dans lesquels on espère observer un effet d'amélioration des performances cognitives chez ces patients qui serait dû justement à la mobilisation de ces réseaux génomiques qui seraient favorisés par la présence de caféine.
Voilà, et si vous voulez retrouver l'intégralité de l'étude sur la caféine dont vous venez d'entendre le reportage du jour, eh bien vous pouvez retrouver tout ça sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Agence européenne des produits chimiques a estimé en début de semaine que le glyphosate n'était pas dangereux pour la santé.
Oui, selon ce nouvel avis qui confirme celui de 2017, le glyphosate, l'un des herbicides les plus utilisés au monde, n'est ni cancérogène, ni mutagène, ni toxique pour la reproduction. La bataille du glyphosate continue donc. On rappelle qu'en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS avait classé le glyphosate comme probablement cancérogène pour l'homme et qu'en juin 2021, une étude remarquée de l'INSERM posait la présomption moyenne d'un lien entre glyphosate et des cancers du système immunitaire.
Des chercheurs ont conçu un médicament contre le cancer qui avance masqué.
Oui, on sait que les traitements contre les cancers sont souvent très agressifs pour l'ensemble de l'organisme. Pour pallier cela, des chercheurs de l'Université de Chicago ont repris des travaux conduits sur une cytokine, une protéine qui module la réaction du système immunitaire face à une menace. Mais il y a un problème. Cette cytokine, baptisée interleukine 12, cause de graves effets secondaires. Et ces chercheurs ont trouvé une astuce. En mettant un capuchon sur l'interleukine 12 et en le retirant seulement lorsqu'il entre en contact avec l'enzyme à proximité des tumeurs, l'interleukine 12 est réactivée et incite les cellules T tueuses à attaquer la tumeur. Une nouvelle piste s'ouvre donc pour lutter contre les tumeurs cancéreuses sans endommager les organes sains. Prochaine étape, valider ces essais chez l'humain.
Et enfin, la plus grande plante du monde a été découverte en Australie.
Il s'agit d'une herbe marine de la famille des Posidonies qui se reproduit de manière clonale. Elle qui se reproduit de manière clonale. Elle s'étend sur environ 200 km et est âgée d'environ 4500 ans. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs australiens ont séquencé plusieurs échantillons de cette plante sur 10 sites différents et ont constaté que 9 d'entre eux étaient constitués d'une herbe génétiquement identique. Le précédent record de plus grande plante du monde était également détenu par une Posidonie en Méditerranée. Elle s'étendait sur 15 km.